Hola, hola, qué tal? C'est Cédric Attal qui vous accueille en ce mardi 12 mars pour revenir sur la 28e journée de Serie A. Avec moi aujourd'hui, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël.
Hola.
Comment estás?
Muy bien, et tout, Cédric?
Très très bien, je vais m'arrêter là pour l'espagnol, profiter de mon voyage pour me rappeler un petit peu les bases, mais voilà, je vais m'arrêter là. On va donc parler français aussi avec Nicolas Wagner. Salut Nicolas.
Bonjour Cédric, ciao à tutti.
Et Antoine Aiello. Salut Anto.
Salut Cédric, ça va?
Ben, ça va bien et toi?
Ben, ça va, très belle coupe.
Merci. Comme c'est un podcast, vous ne la verrez pas, par contre, vous allez entendre nos quatre voix juste après le générique. Tiens Anto, est-ce que Fabrizio De André, ça te plaît?
Ça dépend lesquels.
Eh bien, on va commencer cet épisode avec Amore che vieni, amore che vai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. C'est donc parti pour ce 69e épisode de Pronto Calcio pour revenir sur la 28e journée de Serie A. Pour une fois, en ce mardi, on a attendu la fin de la journée. On a bien fait d'attendre puisqu'il y a eu un petit drame à l'Olympico ce lundi soir avec le revers de la Lazio contre l'Udinese de Nicolò. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on parlera aussi un petit peu de la Ligue des Champions puisque l'on a le Napoli qui joue ce mardi soir contre Barcelone et l'Inter qui jouera aussi en Espagne mercredi à Madrid contre l'Atlético. On va donc commencer bien par l'Inter puisque l'Inter continue. Se ne va, la capolista. Plus 16 sur le Milan, nouveau dauphin. Donc l'Inter qui s'est imposé 1-0 à Bologne. Après s'être imposé 2-1 contre le Génois lundi dernier, deux succès étriqués, mais qui permettent à l'Inter d'enchaîner donc une série de 10 succès de rang. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire du club que l'Inter atteint une telle série. On a à la fois un petit peu tous les compteurs, l'Inter, on va pas tous les faire, mais les 75 points, c'est le meilleur ou le deuxième meilleur total après 28 journées, plus 57 en différence de but. C'est la meilleure différence de but depuis les années 50. C'est assez impressionnant. Et donc, Raphaël, on se posait une petite question. On se l'a posée en privé. Tu l'as aussi posée sur notre compte X, Twitter. À combien de points finira l'Inter, selon vous? On a déjà eu pas mal de réponses, une quarantaine de réponses, avec des tendances qui donnent plus plutôt en dessous des 100, non?
Alors oui, effectivement, on a fait un petit sondage qui a récolté une quarantaine de réponses. Les réponses les plus données ont été quand même 98-99 points, ce qui est quand même assez énorme et ce qui est très rare en Serie A. On rappelle que le record du nombre de points obtenus en une saison, c'est la Juve avec 102 points, il y a une petite dizaine d'années, quand il y avait une réelle domination Juventina. 99 points selon les réponses, c'est juste en dessous des 100, mais c'est quand même déjà un niveau qui est énorme et qui suffira largement pour être champion. La vraie question, c'est de savoir si l'Inter va s'arrêter en chemin après avoir officiellement pris la deuxième étoile, c'est-à-dire normalement dans, allez, selon si on est optimiste ou pessimiste pour eux, dans 4-5 journées, je dirais, ou 6. S'il faut, mais voilà, en fait, tout dépend s'ils s'arrêteront en chemin ou s'ils vont essayer de continuer pour les records. Comme tu l'as dit, y a pas mal de records qui peuvent être joués, le nombre de points, le nombre de buts, la différence de buts, etc. Donc à voir.
Sachant que le record, c'est donc oui, 2013-2014, la Juve de Conte, qui était en Europa League cette saison-là, enfin qui avait commencé la Ligue des Champions, la classique de Conte, il n'a pas passé les poules, donc reversé en Europa League, ils avaient été jusqu'en demi-finale d'Europa League. Je dis ça parce que ça peut aussi compter le parcours, bien sûr, en Ligue des Champions de l'Inter, qui joue le huitième de finale retour ce mercredi contre l'Atlético. En cas de quart, voire de demi-finale de Ligue des Champions, l'Inter pourrait perdre un petit peu des points en route, forcément. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as répondu en dessous des 100, toi aussi, sachant que l'Inter ayant 75 points et comme il reste 10 matchs à jouer, le calcul est facile à faire, ça fait 105 au maximum. 10 succès, ça ferait 105. 9 succès, un match nul, 103. 9 succès, une défaite, 102, comme la Juve de Conte, qui d'ailleurs a fait une grosse fin de saison en 2013-2014, qui avait enchaîné que des victoires une fois le titre obtenu. Parce que vous savez, Conte aussi est un malade de record, donc il avait poussé ses joueurs à ne pas lâcher. Mais voilà, pour continuer ou pour atteindre, en tout cas, le total historique de cette Juve-là, l'Inter devrait continuer en fait ce qu'elle fait depuis 3 mois maintenant. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, ben après, on sait très bien que ça va être conditionné par le parcours en Ligue des Champions, et donc on va avoir la réponse dans pas très longtemps. Ça va dépendre aussi de l'état de forme de l'escouade offensive. On sait très bien que le jeu de l'Inter est assez énergivore et que pour le coup, pour l'instant, le duo Lautaro-Thuram a été assez épargné par les blessures, mais pour pouvoir atteindre le record, faudrait que ça continue comme ça. On a vu qu'Arnautovic et un peu sur le flanc, donc ça va être un peu embêtant. Il faudrait pas qu'il y ait un des deux joueurs stars de devant qui se blesse et qui soit blessé longtemps. Donc ça, il y a quand même pas mal de paramètres qui me font dire que ça risque d'être quand même compliqué, parce que tenir comme ça sur toute une saison, on l'a vu, c'est rarissime. Il y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait dans l'histoire. Peut-être Arsenal dans l'ère moderne au début des années 2000. Donc on va voir. Moi, je pense que ils vont être en dessous des 100, pas forcément loin, mais en dessous, et ça sera déjà très bien. Et je pense que de toute façon, le principal objectif de cette année, c'est la deuxième étoile, c'est pas forcément le record de points.
D'ailleurs, on peut faire une petite transition pour donner nos 4 petits pronostics du nombre de points qu'aura l'Inter en fin de saison. Donc toi, Nico, tu nous avais dit combien?
Je crois que j'ai dit 95.
Voilà, tu nous avais dit 95. Moi, j'avais dit 92. En fait, je compte sur une fin de saison plutôt tranquille et pas les records à chercher, etc. Mais
Comme le
bon.
Napoli, en fait, la saison passée, qui, une fois le titre obtenu aussi, avait un petit peu relâché, la sortie de la Ligue des Champions aussi, qui les avait un petit peu démobilisés. Donc, puis la fête du Scudetto qui avait commencé en mars à Naples. Donc, tout ça réuni, c'est vrai que le Napoli, par exemple, avait fini doucement.
Toi, Cédric, tu nous as dit 95.
Aussi, oui, j'espère, surtout en un parcours en Ligue des Champions, parce que si l'Inter devait sortir, je pense que par contre, il aurait tout pour faire le maximum de points, pour rester mobilisé en quelque sorte. Donc voilà, je pense qu'ils perdront des points pour la Ligue des Champions. S'ils sortent mercredi, je pourrais revoir mon jugement et les voir sur du 99-100.
Alors ça, c'est intéressant et effectivement, vous en avez parlé de la Ligue des Champions qui est très énergivore, qui va prendre dans les têtes et physiquement. Après, je n'ai pas souvenir que l'Inter ait perdu beaucoup de points dans les matchs qui suivaient les matchs de Champions cette année, donc à voir si ça va se jouer ou pas. Et toi, Antoine, tu nous as dit 101. Donc vraiment, c'est un des plus gros nombres de points donnés dans les réponses. Tu ne comptes du coup 101, c'est seulement 4 points perdus en chemin, donc une défaite et un match nul.
De nul.
De nul ou de nul, oui.
Moi, j'ai mis ça parce que enfin, malheureusement pour les points d'Italie, pas malheureusement pour eux, vu que enfin, ça joue en Inter, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je les vois
Bon?
pas forcément. Je les vois pas forcément aller loin en Ligue des Champions, parce que je pense pas qu'ils pourront à chaque fois avoir la même moule que l'année dernière avec leur tirage. Donc, sauf s'ils prennent le gagnant de Dortmund. Je ne sais plus contre qui c'est, Copenhague.
PSV Dortmund, PSV.
Dortmund, ouais, c'est ça. Je me rappelle même pas. En fait, je les vois pas trop. Enfin, s'il y a encore ça, même si, pour l'anecdote, hier, il y a Andrea Chazy qui est venu manger dans un de mes restos. On a beaucoup discuté. Il était avec d'autres journalistes au foot. Il disait que pour eux, l'Inter était favori des champions et qu'il les voyait même gagner. Moi, je trouve quand même qu'il y a une vraie baisse. Dernièrement, pas de résultat, parce que c'est quand même extraordinaire de faire 11 victoires d'affilée, mais on sent quand même qu'il y a une usure, et malheureusement, le couperet des blessures commence à tomber. Donc je pense que ça va être difficile pour eux, en Ligue des Champions, dans l'intensité, de continuer selon le tirage. Et après, j'ai mis sur un point parce que j'ai un peu tendance à dire qu'à part s'ils rencontrent des équipes qui sont en bas de tableau, c'est quasiment un peu figé pour certains endroits en Serie A. Ils ont déjà joué la Juve. Milan, ça va jouer. Bon, ça va être un derby, donc ça va être un peu enflammé, mais. On va dire que l'Inter aujourd'hui en Serie A, c'est admirable de les voir jouer comme ça, parce que ils ont franchement quasiment plus rien à jouer, même s'il y en a encore qui disent non, c'est pas fait, on peut encore perdre du match d'affilée. Enfin, non. En dehors de l'Inter qui perd des matchs, il faut aussi voir si les autres derrière ils vont en gagner autant, enfin, ou gagner les 10 matchs, ce que je pense pas probable, surtout que le deuxième c'est Milan. Et d'ailleurs, au niveau arithmétique, on voit que ça y est, Napoli n'a plus de Scudetto sur le maillot, vu qu'ils ne peuvent plus rattraper l'Inter. Mais donc voilà, je pense que les points seront conditionnés, comme dit Cédric, sur la Ligue des Champions. Et pour moi, s'ils ont un gros tirage, je les sens quand même vraiment émoussés et commencent à avoir des blessures. Et peut-être que je suis un peu contre-courant, mais moi, je ne les vois pas forcément aller loin en Ligue des Champions.
On verra pour la Ligue des Champions déjà ce mercredi avant le tirage. Il faut déjà le passer, l'obstacle Atlético, qui aura le retour notamment d'Antoine Griezmann, qui aura un stade complètement acquis à sa cause. Et on sait que l'Atlético à domicile, c'est particulièrement compliqué, surtout en Ligue des Champions. Combien de points a perdu la Juve en cette journée sur l'Inter? Est-ce que vous êtes rendu compte, entre la 21e et la 28e journée, la Juve, combien de points a-t-elle perdu?
Ouais,
En
c'était énorme parce qu'ils ont fait pas mal de matchs nuls et de défaites. Ils n'ont pas avancé beaucoup, donc ils ont dû perdre au moins 6-7 points.
Non, moi je dis
7, 16 points.
c'est 13 ou 15, un truc comme ça.
C'est 15.
7.
Ils ont perdu 15 points en 7 matchs. Donc vous vous rendez compte. Et comme il reste 10 journées à jouer, effectivement, dans l'absolu, même dans l'autre sens, on pourrait avoir une chose du genre, mais il faudrait que le Milan ou la Juve change de rythme, même si le rythme du Milan est bon en 2024. Donc l'Inter s'est imposé 1 à 0 sur la pelouse de Bologne. Donc pour vous rappeler rapidement, avec un but de Bissek sur un centre de Bastoni. Donc, vous savez, il y avait la mode du piston qui centrait pour le but de l'autre piston. Eh bien, on est arrivé au défenseur gauche qui centre pour le défenseur droit dans la surface. Et ce n'était pas sur un corner ou une chose comme ça, c'était en plein jeu. Donc voilà, ça aussi, ça montre un petit peu le jeu, comme on appelle en Italie, liquide, liquido, de l'Inter, un petit peu tous les joueurs permutent et changent de poste.
Impulso, cerca la collaborazione di Carlos Augusto che deve far sfilare il pallone. Bastoni lo può crossare di prima verso Thuram, arriva dall'altra parte Bissek e porta avanti l'Inter al 37esimo minuto. L'inserimento improvviso, il colpo di testa perfetto, il secondo gol in campionato di Jan Bissek, 0-1 al Dallara.
L'AC Milan, de son côté, Raphaël, s'est aussi imposé 1 à 0 contre Empoli à San Siro. Alors, c'était pas le match de l'année, mais bon, en cette période avec les Coupes d'Europe et pas mal de matchs donc à jouer pour l'AC Milan. L'essentiel a été assuré grâce à Pulisic, encore une fois, 10e but toute compétition confondue pour l'Américain, qui est donc bien le deuxième meilleur buteur derrière Giroud, 14 buts toute compétition confondue. On peut ajouter les 9 de Leao, les 8 de Jovic, les 5 d'Okafor, aussi passeur décisif pour Pulisic ce dimanche. C'est peut-être ça qui a changé positivement à Milan, non, cette saison, c'est que il n'y a plus que Giroud et Leao. Il y a aussi d'autres joueurs qui marquent, qui font des passes décisives, et qui créent le danger.
Bah écoute, c'est exactement ça, Cédric. Tu devrais être supporter du Milan parce que tu livres les bonnes analyses et tu connais bien l'équipe. Mais oui, effectivement, le fait d'avoir cette saison, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais d'avoir du Okafor, d'avoir du Pulisic, ça permet d'être des alternatives très intéressantes à Giroud Léao, qui étaient quand même les top scorers des années précédentes. On sait que l'année dernière, il n'y avait pas d'ailier droit, il n'y avait pas de remplaçant viable à Giroud. Cette année, Jovic, c'est compliqué, mais bon, il a marqué quand il est rentré. En revanche, dès qu'il est titulaire, c'est beaucoup plus dur. Et il était titulaire ce week-end, et du coup, c'était très dur. Mais Okafor et Pulisic ont vraiment fait un bon match. L'un a fait une passe décisive à l'autre. Pulisic s'est créé pas mal d'occasions. Et il est très souvent décisif. Il faut regarder le nombre de buts marqués qui ont débloqué un match, qui sont soit les premiers buts, soit les buts qui permettent à Milan de mener au score. Et ça, c'est super intéressant. Comme tu dis, Léao et Giroud sont peut-être un peu moins décisifs, même si Giroud, attention, c'est le meilleur passeur du championnat, moins décisif dans le jeu que l'année précédente. Mais bon, il y a au moins une alternative. Après, moi, je soulignerais beaucoup, et on en a parlé à Antoine à l'issue du match du Milan, c'est vraiment l'impact du milieu de terrain, avec un Loftus-Cheek qui est d'une puissance mais énorme balle au pied, et c'est très dur de l'arrêter quand il conduit la balle. Un Reinders qui, lui, monte en puissance d'une autre manière, c'est-à-dire techniquement, il trouve vraiment son rôle et sa place, ce qui était un peu moins le cas dernièrement, au point même que le meilleur milieu, ou du moins le plus régulier des années précédentes, qui était Bennacer, est un peu effacé. Et on le voit un peu moins, ce qui n'est pas plus mal, parce que bon, il a un rôle quand même de sentinelle, donc ce n'est pas forcément lui qui va avoir un rôle décisif dans les 30 derniers mètres adverses. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine, mais pour moi, vraiment, cet impact au milieu est en train de prendre vraiment forme et peut être vraiment un atout considérable pour Milan dans les échéances à venir, c'est-à-dire les gros matchs à venir, et peut-être même pour la saison prochaine.
Non, il y a je pense qu'il y a un achat très cohérent de Loftus-Cheek. Après, Cédric, il a cité les buteurs. On pouvait aussi citer Loftus-Cheek qui était aussi à 8 buts et qui est à 2 buts de son record personnel de 10 buts avec Chelsea avec sous la houlette de Sarri. Franchement, dans le football moderne, je pense que on sait très bien que la zone la plus importante, c'est le milieu de terrain. Je pense que aujourd'hui, si on fait un comparatif très rapide, si on parle de milieu de terrain, l'Inter était aussi premier grâce à son milieu de terrain. Et d'ailleurs, j'avais dit à Cédric qu'il était bizarre qu'il fasse pas de turnover contre Bologne sur le milieu de terrain, mais en fait, qui est tellement indispensable qu'ils sont obligés. Et là, je trouve que Milan, finalement, Tonali est parti. On était tous tristes. Le joueur était bon, Tonali, mais je pense que on était plus triste parce qu'il incarnait, déjà c'était un Italien, il incarnait l'esprit Milan, mais finalement on a quand même récupéré Reinders et Loftus-Cheek pour les deux combinés à 38 millions d'euros. Et on voit aussi que Loftus-Cheek est un joueur du coup qui est anglais, qui a évolué en première ligue, et ben, en Italie il se régale, quoi. Il a un coast-to-coast, c'est un coast-to-coast de fou furieux. Quand il part avec la balle, il peut embarquer 3-4 joueurs, c'est assez puissant physiquement. Et surtout, c'est très juste techniquement. Et Reinders, il a ce côté vraiment relayeur très fin techniquement. Là, il commence un peu. Il a marqué quelques buts. Il a 3 ou 4 buts cette saison déjà. Et surtout, une petite stat, c'est que contre Empoli, le milieu de terrain Reinders, Bennacer, un peu moins Loftus-Cheek, qui joue presque en numéro 10 en phase offensive. Les deux milieux de terrain, Bennacer et Reinders, ils ont fait 200 passes. Ils ont touché 200 fois la balle tous les deux. Là où Malet et Fazzini, ils en ont touché 68. C'est une mainmise. Tout, c'est des passes intéressantes. Ce n'est pas des passes pour faire des passes. C'est vraiment des passes pour casser les lignes. Donc, je pense que Milan peut bâtir sur ces deux joueurs qui sont quand même très jeunes. Ces trois joueurs qui sont quand même très jeunes. Et je pense qu'il y a un bel avenir si, en plus, on a des petits jeunes derrière qui montent pour prendre la place comme Adli ou même Moussa quand il fait sa rentrée, même si ça a un profil différent.
Voir Zeroli, on verra s'il sera intégré la saison prochaine. Nicolas?
Ouais, en fait, tous les joueurs qui ont été énoncés par Raphaël au début de son intervention, c'est des joueurs qui ont été achetés à l'intersaison. Donc, ça valide le bon recrutement effectué par Milan cet été, les arrivées de tous ces joueurs. Et on voit que ça porte ses fruits sur le terrain, puisque on l'a vu, hein, que ça soit Loftus-Cheek, Pulisic, Reinders, Jovic en super sub. Okafor aussi dans son rôle de remplaçant qui rentre des fois pour dynamiter les fins de partie sont des joueurs très importants dans la saison du Milan.
C'est Moussa qui a un rôle dans la rotation qui est correct. Bon, après, il y a Chukwueze, peut-être qui est un peu plus décevant, mais bon.
La profondeur, Okafor, c'est le buco. Grande palla di Bennacer. Okafor in aria, la mette dietro. Per Pulisic, déviation, Christian Pulisic.
Je vais faire une transition, justement, puisqu'on parle milieu de terrain. Je vais un petit peu changer le programme. On va passer tout de suite à l'homme du week-end. Je l'ai élu de façon dictatoriale. Cope Meijners, le milieu de l'Atalanta, auteur d'un doublé, qui arrive donc à 10 buts. Déjà, cette saison, comme la saison passée, 10 buts en Serie A pour le milieu néerlandais, international néerlandais, qui a déjà 20 sélections. Il a tout juste 26 ans, il les a fêtés fin février. Alors, depuis 6 mois, 1 an à peu près, on lit encore, 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 et c'était le cas bien sûr avant la semaine, pour peut-être un petit peu tenter de déstabiliser un petit peu l'ambiance du côté de Bergame, que la Juve est très intéressée, qu'elle rencontre l'agent, blablabla, bla, bla, résultat doublé. Voilà. D'ailleurs, il continue encore ce matin à Totosport avec une nouvelle une sur Cope Meijners. Alors, est-ce que Cope Meijners, je vous le demande rapidement, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail, mais est-ce que pour vous, c'est dans le top 4-5 meilleurs milieux de terrain en Italie? Je vous la pose comme ça la question, parce qu'on vient de parler des milieux du Milan, parce que lorsqu'on parle du milieu de l'Inter, Frattesi, d'ailleurs, dans une interview, a dit aucun autre joueur, aucun autre milieu de Serie A ne serait titulaire à l'Inter, puisque les trois, selon lui, sont les trois meilleurs à leur poste. Donc pour lui, c'est normal qu'il soit remplaçant derrière Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella. Mais est-ce que pour vous, un Cope Meijners, du coup, par exemple, serait intégrable ou meilleur que l'un de ces trois ou pas? Nicolas, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, intégrable carrément, meilleur que les trois, je ne sais pas, parce qu'il a quand même eu une petite tendance à disparaître parfois dans les matchs importants. On l'a vu notamment contre l'Inter la dernière fois, j'ai été très déçu de son rendement. Mais pour autant, pour un milieu comme lui, qui est quand même plutôt un milieu axial, un peu défensif, il marque quand même régulièrement. Donc non, il serait largement intégrable dans une équipe comme l'Inter.
Raphaël, qu'est-ce que tu en penses de Cope Meijners, sachant qu'il est de plus en plus offensif, justement, maintenant il le met souvent dans les trois offensifs, Gasperini, alors qu'auparavant il était un peu plus dans un rôle de mezzala.
Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Nico quand tu dis qu'il disparaît dans les matchs importants. Il vient de mettre un doublé contre la Juve, il a marqué contre Milan, il a marqué contre la Roma au mois de janvier. C'est au contraire un joueur qui, pour moi, ne se cache pas et qui peut être décisif. Donc effectivement, moi, je le place dans les 5 meilleurs milieux d'Italie. Après, à voir s'il peut jouer à l'Inter, c'est un autre débat. Mais oui, c'est un des tout meilleurs en Serie A et selon moi, il partira pas à la Juve cet été parce qu'il y a d'autres équipes européennes qui se mettront dessus et qui auront davantage de moyens que la Juve.
Parce que Anto, un Cop Miners, c'est quoi? C'est 60 millions d'euros minimum, non? Franchement.
Ah bah si c'est pour un club anglais, oui, au moins. Après, c'est quand même fort que sur ces 18-20 mois derniers, il ait marqué autant de buts. Après, on sait aussi que les milieux de terrain ont un rôle important. Enfin, toute la ligne de 5-6 ont un rôle important à l'Atalanta. Tout à l'heure, tu faisais l'analogie entre les défenseurs centraux et qui se font la balle, mais on sait que la spécialité de l'Atalanta, c'était entre les pivots ou les milieux qui coupaient ou qui s'inséraient. Donc c'est une vraie mezzala moderne qui joue. Qui arrive. Moi, je trouve que, comme dit Raphaël aussi, il se cache pas. Et en plus, il a même tendance à, quand l'équipe souffre, on l'a vu par exemple en Coupe d'Italie avec le Milan, contre le Milan, ou même quand il y a eu 1-1, il met le pénalty contre Milan. Il peut aussi très bien reculer un peu et un peu plus redonner. Bon, après, d'après Fratesi, il ne pourrait pas jouer à l'Inter, vu qu'il n'y a aucun milieu de terrain qui est aussi bon que celui de l'Inter. Donc, non, il ne pourrait pas jouer à l'Inter. Par contre, je pense que si. On parle de la Juve, mais si Rabiot, qui, je rappelle, est en fin de contrat et qui est aussi un énorme milieu de terrain en Italie, part. Moi, je pense que c'est un profil qui pourrait être intéressant. Il y a quand même beaucoup d'informations qui se regroupent sur l'intérêt de la Juve. Moi, j'aimerais bien qu'il reste en Italie parce que c'est pas non plus, c'est un joueur quand même important. Et surtout, c'est un joueur l'an dernier, je crois, qui avait mis deux triplés en Serie A. Donc,
Oui.
pour un, c'est quand même des grosses. Et surtout, il est très propre techniquement. C'est plutôt un mec de caractère. Il est jeune, il a 26 ans. Donc, il a quand même, il n'est pas encore dans sa pleine maturité milieu de terrain. Et je trouve que, bah, pour le coup, Gasperini a fait un super boulot parce que, enfin, qui aurait pensé qu'il serait à ce niveau-là en arrivant? Il n'avait pas entre
Après, il
guillemets.
a toujours marqué beaucoup de buts, Antoine. Hein. Là, j'ai ses feuilles de stats sous les yeux. C'était en Eredivisie, donc un niveau plus faible que la Serie A, mais il a marqué à chaque fois, à peu près par saison, entre 8, 11 et 15 buts.
Je suis d'accord avec toi. Après, en Eredivisie, dans mon souvenir, je crois qu'il jouait un peu plus devant.
Alkmaar, d'ailleurs, il jouait.
Du coup, avec Reinders. Et en plus, sans manquer de respect à l'Eredivisie, enfin, Serie A, c'est quand même compliqué de marquer. Et en plus, il met des beaux buts et c'est des buts très justes. Quand tu vois contre la Juve, les deux buts, c'est quand même des buts. Enfin, c'est des buts de numéro 10 quasiment. C'est un super placement. Et en plus, il s'est tendance à faire des passes très justes. Moi, enfin, franchement, Coupe Meyer, c'est un. Et en plus, comme on peut pas se dire que l'an dernier, une bonne année, c'était anecdotique. Quand tu fais deux bonnes saisons comme ça avec l'Atalanta en Serie A et que tu montres autant de choses, je pense que ça va être un gros morceau et je ne le vois pas rester à l'Atalanta, surtout s'ils ne vont pas en Ligue des Champions.
Ederson, palla che passa, Gip City al limite, dentro Kop Meiners! La doppietta di Tuco Meiners! Ha pareggiato subito l'Atalanta! Bucata la Juve! 2-2!
Alors, transition tout trouvée, la Ligue des Champions. Il y a eu un vrai statu quo. Tout le monde était au ralenti ce week-end, puisqu'on a dit, bon, la Juve a encore fait match nul. La troisième fois de suite qu'elle prend deux buts, la Juve, qui était basée sur la solidité défensive, ça va beaucoup moins bien. Mais donc derrière, Bologne, qui était invaincue depuis sept matchs, dont six victoires d'affilée, s'est donc incliné, on l'a dit, et a perdu Zirkzee pour un mois à peu près, lui qui devait fêter sa première. En tout cas, son premier rassemblement avec les Pays-Bas de Kop Meiners, eh bien, il devra attendre Zirkzee et donc blessure pour lui. Match nul donc de la Juve contre l'Atalanta, donc l'Atalanta aussi au ralenti depuis quelques semaines. Il y a aussi eu donc ce match nul entre la Fiorentina et la Roma qui a arraché au bout du temps additionnel la spécialité. C'était sous Mourinho, c'était la spécialité d'arracher des matchs nuls ou des victoires en fin de match. Ça a encore été le cas avec ce but de Llorente, sachant que c'est Aouar hein, d'ailleurs qui avait marqué également pour la Roma. Troisième but pour l'international algérien sous le maillot de la Roma cette saison. Mais Raphaël, donc, cette Roma qui a été arrachée ce match nul contre la Fiorentina, qui est important puisque ça permet, je le disais, ce statu quo, puisque la Fiorentina reste derrière la Roma. La Roma actuellement cinquième et donc potentiellement Ligue des Champions si l'Italie obtient la place en plus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Alors moi j'en ai pensé que la Roma a eu très chaud déjà, parce que pour reprendre un peu le fil du match, ils égalisent certes à la 94e, mais surtout ils passent à côté de se voir mener 3-1 par la Fiorentina qui rate un penalty important. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai été un peu déçu par la Roma. Peut-être qu'ils subissent un peu le contre-coup de tout ce qu'ils ont donné comme effort ces dernières semaines, avec notamment la Coupe d'Europe en milieu de semaine. Mais la Fiorentina a un petit peu dominé la Roma, a beaucoup utilisé les mauvaises relances de la Roma avec un Cristante qui était un peu perdu parfois. Et effectivement, il marque à la 95e un but qui ressemble un peu, si vous vous souvenez, à celui de Laurent Blanc face au Paraguay avec une déviation de la tête et une reprise de une demi-volée croisée. Donc c'est un super but, mais je pense que la Roma peut s'estimer un peu heureuse de récolter ce point. Et quand on regarde au classement, ils sont cinquième, pas très loin de la quatrième place. Peut-être qu'on est sur une opération Ligue des Champions de la Roma qui se rapproche d'un Bologne qui, comme tu viens de le dire, a perdu Zirkzee.
En revanche, même si ce n'est pas terminé pour la Ligue des Champions, surtout si on envisage la cinquième place, pour le Napoli, Anto, ils n'ont pas confirmé. Ils avaient les deux Turins à affronter en l'espace d'une semaine. Les Napolitains, ils ont battu la Juve 2-1. Et là, ils ont fait donc un match nul contre le Torino, un but partout. Et cela juste avant de retrouver le Barça en Ligue des Champions. Alors, pourquoi ce match important pour le Napoli? Alors, bien sûr, passer contre le Barça. Alors, bien sûr, passer en quart de finale. C'est très important, mais aussi dans l'optique mondiale des clubs qui vaut entre 50 et 70 millions d'euros, puisque le Napoli, pour pouvoir se qualifier au mondial des clubs, doit éliminer le Barça et gagner un match en quart de finale. S'ils font cela, ils seront qualifiés pour le mondial des clubs 2025 en compagnie de l'Inter pour l'Italie. Sinon, ce sera la Juve. Mais Anto, qu'est-ce que tu penses du Napoli actuel et de. On va déjà faire une petite déviation Ligue des Champions et de leur chance pour. Pour eh bien, arriver en quart de finale. On en a déjà un petit peu parlé d'ailleurs dans l'épisode, tu l'as cité tout à l'heure avec Andrea Chasi, où vous étiez plutôt optimiste.
Alors moi j'étais plutôt optimiste parce que au-delà de la forme du Napoli qui n'est pas forcément top, il y a quand même du mieux avec Calzona. Je pense que le Barça est prenable de base cette année et surtout parce que le Barça ils vont avoir des absents importants. Il n'y a pas de Young, il n'y a pas de Pedri, il n'y a pas de Ferran Torres. J'ai envie de dire que c'est un peu l'année ou jamais pour taper le Barça en Ligue des Champions, parce que ils sont vraiment pas bons dans le jeu, ils sont dans crise institutionnelle, ils manquent des titulaires, ils manquent des joueurs forts. Au match aller, ils n'ont pas montré grand-chose, mais ils ont quand même égalisé, et je pense qu'il y a un réel coup à faire. Donc moi, j'ai toujours dit depuis le tirage, il y a 3 mois, que j'y croyais, donc j'ai pas changé d'avis, vous pouvez le confirmer. J'y crois toujours, et... Je pense qu'il y a des chances et en plus j'ai vu que notre président De Laurentiis hier soir après avoir agressé un caméraman qui interviewait Politano juste avant le match avait annoncé aux joueurs que s'ils se qualifiaient pour le Mondial des clubs, ils donnaient 10 millions d'euros de primes à partager avec l'effectif, sachant que c'est la qualification mondiale des clubs rapporte à peu près 50 millions d'euros au club. Je pense que ça peut les motiver un peu. Donc, et en plus, le Napoli n'a plus rien à jouer. Il y a une qualification en C1 à chercher, mais mine de rien, ils sont en train de se rapprocher d'une qualification. Et je pense que la C1, c'est un peu leur dernier objectif.
Avec un Kvara qui a donc marqué contre le Torino, qui avait ouvert la marque à la 61e minute, quatrième but en trois matchs pour Kvara, qui est complètement débloqué sous Calzona. Et puis l'égalisation était de Sanabria, très très beau but de Sanabria, oui, mais pas le plus beau but du week-end. Le plus beau but du week-end, on vous le fait écouter en version originale.
Posizione buona di Colpani che dà un occhio dentro l'area di rigore, parte il cross al volo! Una girata clamorosa di Dani Mota Carvaglio, 2-0 per il Monza in faccia a Retegui.
Mamma mia cosa ha fatto Dani Mota, coordinazione spettacolare.
Alors c'est Mota, c'est quelque chose. Qui a vu ce but et qui voilà qui peut nous le présenter? Tantôt.
Alors, c'est un schéma de jeu qui a été apparemment travaillé par Paladino et c'est Akpakpro qui fait un centre magnifique pour Mota qui met une reprise et une retournette, quoi. Magnifique. Franchement, je pense que c'est le but du week-end et il peut être dans le top 3 des buts de l'année en Italie. Mais cette semaine, il y a eu beaucoup de retournettes. On a aussi eu le cas avec Sanabria contre le Napoli. Mais techniquement, c'est du très très haut niveau pour ceux qui jouent un peu au foot. Moi, je suis un médiocre joueur, mais pour ceux qui sont offensifs, c'est un geste d'une pureté folle. Quand il met sur une combinaison de corner, du coup, il met cette retournette. J'ai envie tout le monde à le voir. Vraiment un but, c'est magnifique, c'est incroyable. En plus, Mota, qui est plutôt du genre à croquer beaucoup de buts et beaucoup de matchs, là, il nous réussit un truc assez incroyable pour les hommes de Palino.
Et ça nous permet de préciser que Monza a donc battu le Génois à Gênes 3 buts à 2 avec encore le but décisif de Maldini. Il lui fait du bien ce prêt à Monza, au petit Maldini. Alors, on va passer au bas du tableau, puisqu'il y a eu pas mal d'événements. Ça bouge un petit peu dans tous les sens, dans le bas du tableau, avec le succès de Cagliari. 4-2 contre la Salernitana, avec notamment un doublé de Chomorodov. Et oui, il est encore vivant. Moi, j'avais complètement oublié, mais il est encore là. Cagliari, du coup, deuxième succès de suite, 26 points, qui sort de la zone rouge, alors que pour la Salernitana, c'est terminé. Même Sabatini, le directeur sportif, a plus ou moins précisé voilà, que maintenant, il fallait soutenir les joueurs jusqu'à la fin de la saison, que ce n'était pas le moment de lâcher. Mais voilà, Sassuolo s'est réveillé avec un succès 1-0 contre Frosinone. Ça va très, très mal pour Di Francesco à Frosinone, la série qui continue. Et donc, voilà, succès important pour Sassuolo. Mais on voulait s'intéresser à un match en particulier, c'est Lecce Hellas Vérone. Nouveau succès de l'Hellas Vérone 1-0.
Si muove tra le linee Suslov, si fa trovare, trova anche con una verticalizzazione perfetta Folorunshow che va alla conclusione e il Verone avanti, Michael Folorunshow, conclusione sporcata, irraggiungibile per Falcone.
Anto, il s'est passé de tout dans ce match, il y a eu ce but, très très beau but, de l'une des révélations, hein, mine de rien, de ce début de saison, enfin de ce début de saison, non, de cette saison en Italie, Michael Folorunshow, qui a 26 ans. Prêté par le Napoli, qui a marqué son cinquième but de mémoire, qui a encore marqué, je crois, son troisième de l'extérieur de la surface. Il y a eu un très beau but contre la Juve, hein, d'ailleurs, où il y a un but important. Mais là, celui-là aussi est important, puisqu'il offre les 3 points. Et en fin de match, Daversa, l'entraîneur de Lecce, a complètement pété les plombs. Il a mis un coup de boule, en quelque sorte, même s'il n'y a pas une forte intensité, mais il a mis un coup de tête à Henry, l'attaquant de l'Hellas Vérone. Et dans la foulée, Lecce, les résultats plus ce motif, a viré d'Aversa. Donc voilà, crise à Lecce qui se rapproche dangereusement de la zone rouge.
Après, il y a des rumeurs qui disaient que de toute façon c'était prévu qu'ils sautent s'ils perdaient, donc peut-être qu'ils ont aussi sauté sur l'occasion. Après, c'est quand même inacceptable qu'un entraîneur fasse ça en général, en plus à un joueur adverse comme ça. Bon, Italie, c'est pas. On a déjà vu d'autres choses, on a déjà vu pour les nostalgiques Delio Rossi qui étrangle le regretté Adem Ljajic, autre étoile filante de notre football. Vérone, enfin, c'est, je pense qu'il faut quand même souligner le travail de Baroni parce que je ne sais pas si beaucoup de coachs auraient pu faire ce qu'il fait actuellement avec cette équipe-là dans une situation aussi compliquée pour le club. Je rappelle que le président, enfin, on a retiré quasiment le
Les
club au
parts du
président.
club. Ouais, les parts du club sont probablement bloquées par la justice pour une possible banqueroute frauduleuse en fait de ces sociétés.
Sont en séquestre. Et ils ont vendu pour quasiment 40 millions d'euros de 42, 43 millions d'euros de joueurs et pour acheter pour 8 avec des petits jeunes, des Noceline, d'autres joueurs. Ils ont vendu leur capitaine Faraoni. Enfin, on se disait que Vérone allait glisser et rejoindre Salerne en série B. Et finalement, dans l'adversité, ils sont en train de se battre. Et je pense qu'ils pourraient se sauver, enfin, même si. C'est hyper serré entre la 15e et la 19e où c'est mouvant tous les week-ends, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui se passe parce qu'au-delà de l'aspect sportif, et comme je disais, c'est l'aspect. Je pense pas que pour les joueurs de foot, avoir leur employeur, leur dirigeant qui change d'un coup et qui soit sous enquête et un club qui risque d'autres choses parce qu'il y a la bataille du terrain qui est en cours, mais il y a une bataille juridique qui va commencer par rapport au club. Derrière aussi, on sait que peut-être que le club pourrait peut-être même être relégué de trois divisions. Enfin, on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qu'ils vont trouver. Mais c'est incroyable. Donc je pense qu'il faut souligner le travail de Baroni. Je pense que d'ailleurs, toi, tu le dis tous les week-ends, vu que ça fait quand même depuis 2 mois qu'ils font des bons résultats. C'est un contexte tellement difficile que je pense que c'est une belle histoire de notre football, même si Vérone, c'est un club un peu compliqué pour certaines choses.
Et Marco Baroni, oui, qui déjà avait ramené Lecce en Serie A, puis maintenu tranquillement la saison passée, puisque le maintien avait quand même été assez serein du côté de Lecce, et qui donc là, eh bien, enchaîne. Et c'est vrai qu'en ce début d'année, il a eu quatre confrontations directes pour le maintien, Marco Baroni avec Vérone, c'est 3 victoires et un nul. Et puis pour le reste, il y a quand même des bons matchs. On se rappelle du match contre l'Inter, hein, à San Siro, avec ce penalty Raté dans le temps additionnel, ce poteau d'Henri, déjà. Le pauvre, il est dans tous les mauvais coups. Il y a eu un bon match contre la Roma, revers seulement 2-1. Revers aussi 2-1 contre le Napoli. Il y a eu ce match nul, je vous le disais tout à l'heure, contre la Juve 2-2. Au-delà des points pris dans les confrontations directes, il y a aussi de bons matchs contre les grosses équipes. Donc on verra si Marco Baroni réussira à sauver l'Hellas Vérone, au moins sportivement, comme tu le disais, Anto. Nous, on va revenir un petit peu au haut du tableau, enfin pas tellement en fait, hein, puisqu'on est au milieu du tableau, on est à la 9e place, qui pourrait devenir la 10e, voire la 11e si ça continue comme ça. C'est pour la Lazio qui, donc ce lundi soir, Nicolas, s'est incliné 2-1 contre l'Udinese, l'Udinese qui ne bat que des gros de cette saison. Pour le reste, c'est que défaite ou match nul qui s'enchaîne. Donc succès 2-1, très important pour l'Udinese, tu nous le diras bien sûr en optique maintien, mais qui vient clore une période compliquée pour la Lazio. Il y avait eu ce revers 1-0 avec trois cartons rouges contre l'AC Milan, puis la défaite 3-0 en Ligue des Champions et donc l'élimination contre le Bayern Munich. Et donc là, ce revers 2-1 qui pourrait entraîner quelques petites conséquences puisque Lotito a haussé la voix. Il pense peut-être mettre ses joueurs en stage, en ritiro, comme on dit en italien, pendant toute la semaine pour essayer un petit peu de les réveiller. C'est compliqué.
Oui, période compliquée. C'est la quatrième défaite pour la Lazio entre la Serie A et la Ligue des Champions. Bon, hier, c'était aussi difficile pour Maurizio Sarri qui était suspendu d'aligner une équipe compétitive puisqu'il y avait cinq absents. Rovella et Patrick blessés et Marouzic, Guendouzi, Pellegrini suspendus. Donc, ça s'est ressenti un peu sur la composition du 11. Il y a eu un match assez serré tout au long de la rencontre et ça s'est décanté en début de deuxième période où en 4 minutes, tout s'est joué. Puisque l'Udinese a ouvert le score par Luca qui a été à la réception d'un centre-tir de Zemura et une égalisation avec un but contre son camp de Gianetti. Et après, quelques minutes après, le premier but du joueur basque qui a offert la victoire à l'Udinese. Ouais, c'est compliqué, une semaine compliquée avec un déplacement houleux en Bavière puisque une centaine de supporters Lazio avaient été dans la brasserie le Hofbräuhaus où Hitler avait en fait fait des annonces en 1920. Où il avait détaillé le programme du parti nazi et en fait ils ont été là-bas pour chanter des chants de chemise noire. Donc on voit que la Lazio a encore des problèmes avec ses supporters. Ça a été compliqué aussi avec cette absence de chants dessus des supporters en début de match puisque il y avait eu aussi apparemment ils considèrent que le club a été fautif dans la gestion du match. Au niveau du déplacement à Munich. Donc, ils sont restés silencieux toute la première partie de la première mi-temps. Et ils ont commencé à donc supporter le club seulement pour le maillot en seconde période. Mais tout le monde a un peu ramassé puisque la protestation était aussi aussi bien envers l'entraîneur que les joueurs. Puisque quand Ciro Immobile, Luis Alberto sont sortis, ils ont subi des sifflets. C'est une ambiance un peu pesante. Au sein de la Lazio, en conférence de presse, il y a un journaliste a demandé à Maurizio Sarri si c'était pas un fin de cycle, et en fait, il a répondu qu'il savait pas, mais que l'équipe était quand même assez jeune et que pour lui, il sait pas si c'était une fin de cycle et qu'il verrait en fin de saison, tout en précisant que il avait un contrat, mais qu'il n'était pas sûr d'être là la saison prochaine. Donc
Alors,
c'est vraiment une période compliquée pour la Lazio. Ouais.
une question comme ça en 10 secondes, Raphaël. Sarri, il va finir la saison ou pas?
Bah écoute, moi j'avais pronostiqué qu'il n'allait pas passer le mois de janvier, je crois. Donc bon, je ne vais pas m'amuser à dire qu'il va partir tous les 15 jours. Non, maintenant je pense qu'il va finir la saison. Mais si on reste sur un classement tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à la 9e place, ça fait peu de doute qu'il continuera pas la saison prochaine. Moi j'insisterai surtout sur le mois à venir de la Lazio qui va jouer deux fois la Juve et une fois la Roma dans le derby. Et je pense que vu les formes actuelles, ça peut être très compliqué pour eux. Moi, je ne vois pas la Lazio terminer au-delà de la 8e place. Et effectivement, ce serait une grosse déception. Ce serait une grosse déception. Mais je pense que Sarri va finir la saison. Ce serait quasi suicidaire de le voir partir à la 33e, 34e journée. Ça n'a pas vraiment de sens, je trouve.
Sachant que tu parlais de la Juve, il y aura cette double confrontation effectivement en avril en Coupe d'Italie. C'est un petit peu l'objectif peut-être qui va devenir prioritaire, effectivement, aller chercher cette coupe, Nicolas.
Et d'après les rumeurs, Maurizio Sarri serait annoncé sur le banc du Napoli la saison prochaine. À voir.
On verra s'il y aura un retour peut-être, à moins que Calzona, qui était son adjoint, arrive finalement à conserver son poste et peut-être quitter la sélection slovaque après l'Euro. Enfin, avec De Laurentiis, on sait qu'on peut s'attendre à tout. Bon, on a parlé des 10 matchs de cette 28e journée. On va donc terminer avec une petite page pronostique en regardant la 29e journée.
Complimenti a chi viene al campo a criticare, complimenti a chi non è vicino alla squadra. Pseudo tifosi, gente che vuole male al Siena. Gufi, state a casa.
Et ce petit jingle, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, ce qu'on le met à peu près chaque semaine, c'est Antonio Conte, à l'époque Juve, qui s'était un petit peu énervé voilà, par rapport à des personnes qui critiquaient son travail. Alors, cette 29e journée commencera dès vendredi à 20h45. Vous savez, ce match qui souvent n'est pas très intéressant, mais là, ce sera entre l'Empoli et Bologne. Ben, je vais vous le demander, du coup. Empoli lutte pour le maintien, Bologne lutte pour la 4e place. Antoine.
Je vois bien un match nul, surtout que Xavi est blessé pendant un mois, donc je pense que ça va être un peu compliqué pour Bologne offensivement.
Raphaël?
Ouais, les mêmes raisons, match nul.
Nicolas?
Bah, tout pareil, 1-1.
Mais moi, je vais dire 2-1 Empoli. J'ai joué la grosse cote Nicolas qui enchaînerait une belle performance. Un match entre dépressifs, Frosinone et Lazio, samedi 20h45. Antoine?
Bon, là, je pense que la Lazio va gagner 2-0. La Frosinone, défensivement, c'est compliqué. Et je rajoute un petit aparté. J'en parlais encore hier avec notre échange hyper intéressant avec André Hachazi. Ce qui est compliqué avec Frosinone, c'est qu'en plus, ils ont tellement de joueurs de prêt qu'on se demande si les mecs ils vont se battre pour le blason ou pas ou pour le club, vu que la moitié savent qu'ils vont partir. Donc, je pense vraiment que ça va commencer à glisser fort là, du côté de Frosinone.
Tu as raison de le signaler. Moi, je mets des doutes sur le fait que Di Francesco soit sur le banc encore très très longtemps. Raphaël?
Oui, pareil, Frosinone, c'est la deuxième pire défense du championnat. Je les vois sombrer. Et surtout, je pense que la Lazio serait contente de prendre 3 points avant, encore une fois, le calendrier qui les attend. Donc, victoire Lazio, même 3-0.
Nicolas?
Moi, j'ai joué la grosse cote, j'ai joué le match nul sur ce match-là. C'est deux équipes un peu en convalescence, même plutôt avec des éclopés, donc plutôt match nul.
Côté, je vais dire comme un succès de la Lazio 2-1. On va terminer avec deux petits matchs rapidement. L'Atalanta qui continue son calendrier démentiel. Encore une confrontation directe. Au milieu, il y aura bien sûr l'Europe pour l'Atalanta avec le match retour contre le Sporting. Il y aura aussi l'Europe pour la Fiorentina en Conference League. Les deux équipes joueront donc jeudi pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale en Coupe d'Europe. Et le dimanche à 18h se retrouveront. Donc, Atalanta-Fiorentina, Raphaël.
C'est pas évident, mais on va dire victoire à Atalanta.
Nicolas?
Mais je vais partir du principe que la FIO a du mal à gagner contre les grosses équipes, donc victoire de l'Atalanta.
Et de mon côté, je vais dire match nul, un but partout. Et puis on va terminer, ce sera peut-être une passation de pouvoir en quelque sorte, dimanche 20h45, San Siro, entre les deux équipes qui auront joué en Ligue des Champions en milieu de semaine, l'Inter contre le Napoli, Raphaël.
C'est encore une fois pas facile. Allez, match nul, on va dire que les deux équipes seront émoussées et se contenteront chacun d'un point.
Nicolas?
Bah, victoire de l'Inter. Je vois pas ce Napoli-là gêner l'Inter outre mesure, même s'il y a les confrontations européennes en milieu de semaine.
Et puis de mon côté, je vais dire match nul dans le petit total que je vous ai donné. Sur les 95, sur le sondage de Raphaël, j'avais mis dans le petit calcul sur les 10 matchs, un match nul dans ce match-là, donc j'ai resté fidèle à ce match nul. Mais bon, moi, la semaine dernière, je voyais Bologne battre l'Inter dans les pronos, donc pour vous dire que je suis pas forcément le meilleur pour ce qui est de pronostiquer l'Inter. Antoine, de ton côté, Inter-Napoli?
Inter-Napoli, victoire de l'Inter 1-0 sur un but de Sommer, vu qu'il manque que lui qui doit marquer.
Il manque encore Pavard d'ailleurs, parmi les rares joueurs qui n'ont pas encore marqué, mais on verra. Mais c'est vrai que je crois que ça fait 15 ou 16 joueurs qui ont marqué du côté de l'Inter. Ça fait partie de ces statistiques.
Juste derrière eux, c'est le Milan qui a le plus de joueurs qui ont marqué.
Et comme la ligne avait sauté, c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé, mais Atalanta-Fiorentina, Anton.
Ouh là là, pyrotechnique ça aussi. Non, je vois bien l'Atalanta gagner 3-2 parce que je pense qu'il y aura des buts, mais je pense que la défense de la Fiorentina, c'est quand même vraiment du beurre. Donc je vois bien l'Atalanta repartir un petit peu après son petit ses gros calages de dernièrement.
Eh bien, on verra, et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler dès le lundi 18 mars. C'est la trêve internationale juste après, donc on fera un petit bilan de cette journée. Merci beaucoup, Antoine Aiello, Raphaël Gauthier et Nicolas Wagner, d'avoir été avec moi, d'avoir été tous ensemble en ce mardi matin.
Ben non, avec plaisir.
Adios!
Merci à toi. Adios, Chico.
Merci Cédric, et puis bon match à Madrid demain soir. Tu nous raconteras comment était l'ambiance en Espagne Et puis on va espérer pour toi que l'Inter se qualifie, mais moi personnellement, j'espère qu'ils vont se faire éliminer.
Arrêtez, vous allez bien lâcher un Forza Inter là pour faire plaisir à Cédric.
Ah non, jamais.
Ah non, je veux dire mieux, je veux dire Aupa Madrid. Toujours.
Quand on sait la place qu'occupe le Real dans ton cœur, ça me fait de la
Ah,
peine.
mais entre Atlético et l'Inter, c'est le choix est rapide, le choix rapide pour moi, tu sais très bien. Surtout que je sais pas, j'ai hâte de voir le duel Barella-De Paul et voir si Barella il va dépasser son record de roulade. On a hâte de voir ça.
Nicolò Barella, d'ailleurs, qui s'est excusé alors qu'on ne lui a pas posé la question après le match contre
Oh.
Bologne pour son comportement contre le Genoa. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont fait parler ce week-end en Italie.
Quel
Mais
gentleman!
ben,
C'est dommage qu'il n'ait pas fait pendant le match pour éviter le pénalty. Bon. Enfin, c'est un autre débat. Une semaine après, c'est plus simple. Mais bon, bref.
il a fait, alors que d'autres ne le font pas. Donc
Mais il l'a fait, ça ne sert à rien de le faire. Hein. Autant pas le faire et assumer dans ce cas.
il avait fait pareil, Michel Fournier. Mais bon, c'était longtemps après.
Je ne sais
On
pas.
va faire un petit débat pour terminer. Est-ce qui est le pire, Théo Hernandez ou Nicolò Barella?
Bah, si tu prends le prisme des intéristes, ils vont dire Hernandez. Si tu prends le prisme du Milan, ils vont dire Barella. Après, sinon, il y a un truc qui nous unit, c'est Cuadrado. Mais ça, c'est autre chose, vu qu'il a rejoint les rangs de l'Inter. Mais
Il a rejoint Amorim l'Inter. Il va peut-être revenir en avril.
il va quand même être champion en ayant fait 40 minutes, quand même, le type. Hein, c'est fort.
C'est ça, en ayant frôlé le carton rouge contre la Juve pour un tacle de fou furieux pour son retour au stadium. Bref, Amore che vieni, Amore che vai. Qu'est-ce que tu en penses de cette chanson, Anto, du coup?
Ah bah si tu la dédies, tu sais bien que ça va réchauffer mon petit cœur sensible.
Eh bien, je te la dédie et je la dédie à toutes les personnes qui nous écoutent, puisque Fabrizio De André fait partie des légendes de la musique italienne, très grand compositeur, surtout très très belles paroles. Si vous parlez italien, sûrement elles vous toucheront. Chanson un petit peu mélancolique, mais belle chanson pour se quitter en ce mardi.
Que tu allais dire que c'est parti de nos auditeurs. Je dis wow, c'est génial.
Bon, mais adios.
Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai.